Le collectif associatif arageois Artzimut a exposé de nombreux artistes dans le cadre des journées européennes des métiers d'art pendant une semaine à l'hôtel de Guine d'Arras. Une expo intitulée « Patouche » en réponse à la thématique de cet événement « Jusqu'au bout des doigts ». Sculpteurs, créateurs sonores, peintres et photographes entre autres sont venus à la rencontre du public pour expliquer leurs œuvres afin de montrer le vivier d'artistes contemporains qui s'agrandit et qui montre également la diversité culturelle au sein de ce collectif. J'ai rencontré Diane Francoze, artiste qui évolue dans ce collectif. Elle propose la technique du dessin automatique. Elle nous explique comment ça marche et le rapport à l'humain qui dessine mais ne le sait pas à l'instant T. Un univers troublant qui appartient à tout le monde et qui peut avoir des connotations artistiques insoupçonnées. Diane, bonjour.
Bonjour.
Tu peux un peu nous dire depuis combien de temps tu as intégré le collectif Artzimut ?
Alors du coup, moi c'est ma troisième exposition avec Artzimut. Donc j'ai exposé avec les Journées du Patrimoine, ça devait être au courant septembre-novembre dernier. Et aussi une petite exposition au Beffroi. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Donc c'est ma troisième exposition, donc je suis quand même assez nouvelle. J'ai étudié au collège Paul Verlaine et j'ai fait la rencontre avec Catherine Slovic qui participe ici, qui est membre fondateur de l'association. Et tout de suite, elle m'a poussée à aller vers des études d'art. Elle a convaincu mes parents pour que j'aille à l'ESAT à Roubaix, qui est une école où on peut passer un bac ST2A, donc sciences techniques du design et des arts appliqués. Donc je me suis orientée directement dans ça. Et Catherine Slovic nous avait fait un petit cours sur le dessin automatique. Je devais être en sixième, donc ça remonte. Et elle avait expliqué que quand on dessinait et qu'on était au téléphone et qu'on parlait en même temps, en fait, ça s'appelait du dessin automatique. Et je me suis rendu compte que j'étais en train d'en faire tout le temps sans avoir du tout conscience de ce que c'était. Voilà, donc Catherine a vu mon travail il y a peut-être 2 ans de ça maintenant, un peu plus. Elle est passée chez mes parents, elle a vu ce que je faisais, elle a été très intéressée et elle m'a dit « Bon, bah... » moi, je pourrais peut-être te faire entrer dans une association, mais il faut que tu retravailles telle chose. Donc, j'ai retravaillé, j'ai montré mes dessins à Catherine et ça a avancé jusqu'à ce que je puisse exposer ici.
Alors, quand tu dis dessin automatique, ça veut dire vraiment, alors pour expliquer, hein, parce que c'est vrai qu'en radio, il n'y a pas le visuel. Donc, on va essayer d'expliquer un petit peu. Dessin automatique, tu dis donc que tu dessines machinalement à l'instant T, au moment où tu fais des choses ou pas. Et c'est ce qui vient, il n'y a rien de prémédité, c'est voilà, ce qui te vient à l'esprit directement.
Oui, en fait, c'est ça. En fait, c'est quelque chose qui a beaucoup été pratiqué par les surréalistes. Ça a beaucoup de liens avec l'écriture automatique, tout ce qui est cadavre et ski. L'idée, ouais, c'est qu'on va essayer d'avoir le moins de contrôle possible conscientisé sur le travail et de laisser au maximum les choses se faire naturellement, donc laisser le mouvement. Et en fait, on est concentré sur autre chose, on n'est pas concentré sur le dessin. Et du coup, c'est le subconscient aussi qui sort beaucoup de choses. Comment dire ? À la fois, c'est automatique, parce que sur le coup, on essaye de laisser le cerveau faire les choses automatiquement. Donc, n'importe qui peut faire du dessin automatique, dans le sens où il va écrire en téléphonant ou dessiner en téléphonant, c'est automatique dans l'instant.
Ou même pendant une réunion qui est largement chiante.
Oui, mais il y a aussi des gens qui le font pour se concentrer. D'accord. Moi, si je fais du dessin automatique, c'est pas du tout que je suis pas intéressée par ce qui se passe. D'accord. Au contraire, c'est que... pour pouvoir me focaliser sur ce qui se dit ou ce qui se déroule, pour pouvoir y mettre vraiment toute mon attention, eh bien, je vais faire du dessin automatique en même temps parce que sinon j'ai toujours plusieurs canaux d'attention en même temps et que honnêtement, si je ne fais rien et que je te regarde attentivement, je suis très certainement en même temps en train d'imaginer, je ne sais pas... ce qui aurait pu se passer dans un monde où, je sais pas, les armes à feu n'existeraient pas, ou enfin, peu importe, toujours en train de réfléchir à différentes choses en même temps. Donc le dessin, en fait, ça me canalise. Donc souvent, je le fais quand je dois apprendre des textes par cœur ou que j'écris de la musique aussi, que je compose. Donc je réfléchis à vraiment quel mot je vais utiliser par rapport à telle mélodie, bah, dans ce cas-là, je vais dessiner en même temps. Et parfois, l'inverse, pour mieux dessiner, j'écoute de la musique. Mais dans ce cas-là, je suis concentrée sur le dessin. Donc voilà, donc, je te disais automatique parce qu'il y a le côté... on essaye de ne pas avoir de contrôle, mais il y a quand même un contrôle qui s'exerce, donc c'est un contrôle automatique. Mais pour moi, automatique a d'autant plus de sens parce qu'on crée des automatismes au fur et à mesure qu'on le pratique.
D'accord.
Parce que bon, il y a des gens qui dessinent au téléphone une fois ou trois fois par an et du coup, il n'y a pas d'automatisme qui se crée particulièrement. Mais par exemple, moi, je le pratique au quotidien et depuis des années. Et donc du coup, il y a des choses qui reviennent tout le temps et que je n'ai pas choisies. Par exemple, il y a une sorte de forme de pont qui se crée et que l'on retrouve dans la plupart de mes dessins automatiques. Mais en même temps, du coup, je me retrouve dans un système où à la fois j'exploite les automatismes qui sont créés au fur et à mesure, et puis au bout d'un moment, je finis par me sentir prisonnière de l'automatisme parce qu'il prend trop de place. Donc je vais jouer plutôt à essayer de m'en débarrasser, mais essayer de s'en débarrasser sans non plus se focaliser sur le fait qu'il ne faut pas que je le fasse. Donc je vais me mettre dans des situations où par exemple... Bah oui, parce que sinon c'est plus automatique si je réfléchis. Donc par exemple, je me mets dans des situations où je vais dessiner dans le train, où le mouvement du train va m'empêcher d'accéder au pivot de ma main que j'utilise beaucoup, du poignet que j'utilise beaucoup habituellement inconsciemment. Ou alors je vais faire quelque chose de différent de ce que je fais d'habitude en même temps. Je vais me concentrer sur quelque chose de nouveau. Et ça va bousculer un petit peu les automatismes et donc enrichir le travail. Donc ça, c'est pour l'explication de la pratique même du dessin automatique en elle-même, vraiment très manière puriste, on va dire. Mais le dessin automatique, il a une utilité. C'est pas juste on fait du dessin automatique pour remplir la feuille et puis après c'est terminé. Même si en soi c'est déjà un acte créateur et que ça a déjà des beaux résultats. Enfin, là, il y a 7 dessins automatiques qui sont exposés et qui se suffisent à eux-mêmes.
C'est quand même bien minutieux. Hein,
Oui, bah, je pense qu'il y a un besoin aussi. Au début, souvent, on commence par des grands gestes. Parce qu'on a tout de suite envie de remplir la feuille, il y a quelque chose. Et puis en fait, au fur et à mesure qu'on s'apaise, parce que ça apaise beaucoup, au fur et à mesure qu'on s'apaise, en fait, on n'est plus dans ce besoin d'avancer, d'aller vers l'avant. Et donc, enfin, moi, au fur et à mesure, je détaille de plus en plus. Ça commence généralement par du grand et ça se déroule. Et alors, on ne dirait pas comme ça forcément parce que... c'est assez organique et puis on voit généralement qu'il y a des mouvements qui ont l'air assez rapides, mais ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'on peut compter une vingtaine d'heures au minimum pour un format A3.
D'accord.
Du coup, il y a un moment où on n'est plus dans la rapidité, où on flotte un peu quelque part. Donc le dessin automatique, le principe... c'est ça, mais après on s'en sert, par exemple les surréalistes comme Dali faisaient beaucoup de dessins automatiques pour... après, par le regard, et donc le subconscient aussi, trouver des choses qui nous font penser à quelque chose d'autre.
Alors, tu me parlais tout à l'heure de dessin automatique quand tu téléphones, hein, c'est un mot qui est revenu beaucoup. Est-ce que, pas que par téléphone, mais est-ce que des personnes justement avec qui tu es en contact, ou ce que tu vois dans le train par exemple, ça t'influence aussi sur tes dessins ?
Je pense oui, parce que déjà il y a un lien avec l'humeur. Parfois on est plutôt motivé, et quand on est motivé, ben, on va dessiner vite, ou alors quand on est en colère mais qu'on n'a pas envie de le montrer au téléphone par exemple, il va y avoir quelque chose au niveau de la main d'assez furieux, d'assez rapide, d'assez... Et puis parfois, non, quand on est très captivé parce que la personne nous dit, on est dans des mouvements très lents, on oublie en fait limite qu'on est en train de dessiner. Et puis aussi, moi je dessine pas mal au bar parce que... J'aime beaucoup discuter et donc avec mes amis, souvent on a des très très longues discussions au bar et parfois, surtout quand j'ai une exposition qui arrive, je me dis « Ah là là, c'est soit je sors, soit je dessine ». Et souvent, comme j'arrive pas à me décider...
Tu fais les deux en même temps en fait.
Les deux. Donc par exemple, au bar, bah, y a des accidents aussi qui se produisent et qui peuvent être intéressants graphiquement parce que bah, quelqu'un qui s'assoit à ma table lourdement en posant sa chope sur la table, du coup, ça crée une secousse qui fait que mon mouvement est moins maîtrisé d'un seul coup et puis ça apporte quelque chose graphiquement. Et donc, alors, dans cette exposition-là, ce que j'ai voulu mettre en exergue, c'est le fait que pour moi, le dessin automatique, c'est vraiment une passerelle entre l'abstrait et le figuratif. Donc, parce qu'à la base, c'est de facto abstrait. Il n'y a rien qui est représenté. Je n'ai pas eu de volonté figurative au moment où j'ai dessiné. Mais ensuite, le regard là, ne peut s'empêcher d'interpréter des choses. Alors, la question qui reste toujours en suspens, c'est est-ce que le regard ne fait qu'interpréter, enfin mon regard en tout cas, parce que le regard des autres, c'est différent, mais est-ce que mon regard ne fait qu'interpréter des choses de lui-même, ou est-ce que ma main avait elle-même en fait dessiner des choses qui représentaient quelque chose sans que moi je m'en aperçoive, ça, on ne sait pas trop. Mais bon, du coup, il y a quelque chose de figuratif dedans, parce qu'on peut imaginer tout plein de choses. Ça donne accès à d'autres mondes. Et ça, c'était beaucoup utilisé pour enrichir les tableaux, les compositions des surréalistes. Par exemple, Dali, il allait faire des dessins automatiques. Et il y a des formes qui allaient surgir et qui allaient lui parler beaucoup. Et qu'il allait utiliser ensuite pour composer un tableau où là, tout est très conscientisé, à l'inverse. Et alors, j'avais déjà exposé du dessin automatique avec Arzimuth sur la petite exposition au Beffroi. Et puis, il y avait pas mal de personnes qui étaient très sensibles à ça et qui imaginaient tout plein de choses. Et je dirais à peu près 15% des visiteurs qui étaient très frustrés par ce travail parce qu'ils n'arrivaient pas à se projeter dedans. Ils restaient vraiment au côté abstrait. Et donc là, je me suis dit que j'allais donner un peu des outils pour un peu plus facilement accéder au côté figuratif du travail. Et donc, il y a une tablette tactile qui est à côté des dessins, où sur le fond de la tablette, ben, on voit des scans, en fait, des dessins qui ont été faits. Et en touchant du bout des doigts, eh bien, ça va déclencher des animations. D'accord. Si on touche au bon endroit, ça va déclencher une animation de quelque chose que j'ai vu. Donc, par exemple, le premier dessin auquel les gens ont accès, normalement, c'est un petit dessin automatique format A5, où au centre n'a pas été dessinée une forme, enfin une forme reste en blanc, et cette forme, elle m'évoque celle d'un loup qui hurle.
Ah oui, oui, en effet.
Et, et donc, en cliquant dessus, je me suis éloigné pour cliquer.
Ah, et du coup, il prend forme de manière beaucoup plus... Ah oui, bah voilà.
Okay. Voilà, donc le loup existe.
Ah, déjà, parlons de ta technique. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est de l'encre de Chine? Est-ce que c'est du crayon? Est-ce que c'est du feutre ou une autre...
Alors, ça se rapproche... Souvent, je dis aux gens que c'est de l'encre de Chine au pinceau, parce que ça a les mêmes propriétés que l'encre de Chine... dans le sens où, par rapport à la lumière, si je faisais un travail à l'encre de Chine, ça donnerait la même chose. La seule petite différence, c'est que moi, j'utilise des pinceaux rechargeables en cartouche. D'accord. Et donc, de facto, je ne sais pas exactement quelle encre c'est, parce que c'est pas précisé. On a les compositions des encres, mais ça ne peut pas être de l'encre de Chine, parce que l'encre de Chine, si on le met sur un pinceau et qu'on ne le nettoie pas, ça bousille le pinceau. Donc, mis à part le fait que ça ne bousille pas mon pinceau, parce que je ne le nettoie pas, mon pinceau, je remets le capuchon et c'est fini, ça a exactement les propriétés de l'encre de Chine. Et je travaille comme ça plutôt pour des questions de commodité. Ça me permet de pouvoir dessiner dans le train, par exemple, parce que bon, sortir son petit, son petit pot d'encre de Chine, c'est compliqué. Et puis surtout, le fait d'avoir des cartouches rechargeables me permet d'avoir un noir uniforme tout du long du mouvement et de ne pas me soucier... de remettre de l'encre ou pas. Mais ça, c'est très récent. Ça fait peut-être seulement un an et demi que je travaille avec des pinceaux à cartouches rechargeables. Tout simplement parce que ça fait peut-être 2 ou 3 ans que ça existe sur le marché en France. Avant, ça n'existait pas. Donc, c'est un outil relativement nouveau. Donc, si vous aimez beaucoup dessiner à l'encre, je vous conseille. Hein, c'est trouvable assez facilement.
On parlait d'écriture automatique, justement, et quand on voit que ça ouvre des perspectives à l'imaginaire, des gens qui regardent des œuvres et qui les ressentent, et même les personnes qui voudraient éventuellement se saisir de cette technique de dessin automatique.
Alors, j'ai été animatrice périscolaire pendant quelques années, et cette technique, je l'ai beaucoup utilisée avec des enfants et avec des classes où parfois ça devenait un peu incontrôlable parce que les enfants chahutaient beaucoup. Avec des enfants qui avaient des soucis de comportement, ça a toujours très très bien fonctionné. les apaiser. Je pouvais faire des séances de 2 heures où les enfants étaient...
Les hyperactifs, par exemple.
Oui, et ça fonctionne très, très bien. Après, ça, c'est qu'une clé. Elle n'ouvre pas toutes les serrures, mais pour beaucoup d'enfants, ça peut fonctionner. Et je pense aussi pour beaucoup de personnes adultes. Enfin, moi, je l'utilise aussi vraiment pour ça, pour me calmer. Et puis, au-delà de ça, je pense que même pour les personnes qui font face à de la dépression ou quoi, ça peut être intéressant. Parce que ce qu'il y a de merveilleux avec le dessin automatique, c'est que ça permet de lutter contre la peur de l'échec. Parce qu'il n'y a pas d'attente. La seule manière d'échouer, c'est de ne pas terminer le dessin. Donc, de ne pas aller jusqu'au fait de le remplir. Mais à vrai dire, un dessin est terminé quand la personne qui dessine juge qu'il est terminé. C'est quelque chose qui permet vraiment de lutter contre l'échec, il n'y a pas d'attente. Et puis si le résultat... Là, par exemple, j'ai 7 dessins automatiques que je vous présente, j'en ai fait beaucoup plus. J'ai jugé ensuite que ceux-là, j'avais envie de les exposer parce que je les trouvais bien graphiquement. Ils ne sont pas forcément tous graphiquement aussi intéressants, on va dire.
Mais c'est la question bonus, est-ce qu'il t'arrive, une fois après avoir dessiné, de dire « Ah non, bah, je jette ».
Alors,
parce que c'est pas évident là, du coup, quand on dessine automatiquement, on se dit bah non, faut garder, sinon c'est plus automatique. Si on jette après, ça veut dire que on réfléchit en fonction de ce que les personnes vont voir et se sont dit oh non, bah finalement ça vaut pas le coup.
Alors moi j'ai jeté beaucoup beaucoup de dessins, j'en ai brûlé aussi beaucoup. Alors pas spécifiquement pour des questions que.
Quand tu dis brûler, ça c'est une.
C'est
symbolique ou.
Non, vraiment. Les avoir vraiment brûlés, mais c'est pas par rapport au fait que qualitativement j'avais des reproches à leur faire, c'est surtout qu'au début je pratiquais le dessin automatique pour moi-même. Le faisais parce que ça me calmait sur le moment, et le problème c'est qu'à un moment où je pratiquais vraiment beaucoup et je me retrouvais avec des quantités astronomiques de dessins. Et qu'il y a un moment donné, je ne savais plus quoi en faire. Puis surtout, là maintenant, je travaille avec des matériaux qui sont pérennes. Par exemple, mon papier a été choisi par rapport au fait qu'il va résister à une très bonne exposition à la lumière et longue. Donc, je veux dire, là, ces dessins-là, je sais que dans 10 ans, ils seront dans la même qualité qu'aujourd'hui. Alors qu'avant, je dessinais beaucoup au stylo, ou alors j'utilisais de l'encre de Chine, mais j'utilisais des cure-dents pour dessiner. J'avais pas forcément le matériel. Donc voilà, j'étais très prolifique, mais et puis à côté, surtout, je dessinais des choses figuratives que, elles, je considérais comme vraiment un travail. C'était pas mon travail, mais le reste, si.
Est-ce que tu intègres des fois des couleurs, mais où c'est vraiment toujours du noir et blanc? Enfin, surtout du noir, puisque le blanc, j'imagine que c'est le papier.
Alors, j'ai tendance à, dans mes carnets de croquis, mettre pas mal de couleurs. J'aime bien travailler au Colorex.
C'est quoi exactement, ça?
Alors, le Colorex, c'est une encre... pas vraiment aquarelle, mais un petit peu aquarelle. Enfin, c'est une encre qu'on peut mélanger avec de l'eau et qui permet de faire des couleurs vraiment très vives. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est le rose, le bleu. J'aime bien les couleurs vives et qui vont vers le pastel. Pas, à partir du moment où une couleur est foncée, elle m'intéresse beaucoup moins. Alors, sur l'iPad, on peut voir un petit peu de couleurs parce qu'il y a certaines animations, enfin, certains endroits des dessins qui m'ont fait penser, par exemple, à des paysages. Et alors, au lieu de faire une animation où les traits se modifient et tout ça, j'ai simplement redessiné exactement l'encre de la même manière qu'elle se présente sur le dessin. Et j'ai incorporé de la couleur pour faire comprendre les espaces. Parce que, par exemple, le vert, on l'associe tout de suite à de la végétation. Le bleu, tout de suite, à de l'eau. Donc, il y a un travail comme ça. Donc, j'aime beaucoup la couleur, mais je ne me sens pas encore aussi à l'aise que le noir et blanc. Le noir et blanc, j'ai confiance dans ce que je fais. Et la couleur, ça connote tellement de choses différentes qu'on peut facilement perdre le contrôle de ce qu'on dit, je trouve, avec la couleur.
Et enfin, du coup, comme je regarde, là, c'est mon avis personnel. Oui. Tu peux me dire si tu es d'accord ou quoi. Moi, j'ai l'impression que dans les dessins qui sont exposés là, on a une sorte d'ambiance un peu de, je dirais pas de forêt, mais de, comment je peux dire, des espèces de buissons qui s'entrelacent, on a l'impression d'être un petit peu perdu au milieu des broussailles ou je ne sais pas exactement. Et je pense que tous tes dessins reflètent un petit peu ce côté très resserré, très très minimaliste, mais en même temps on a l'impression que si on va dans ce dessin, on va se perdre ou alors on va se retrouver ligoté par des lianes ou je ne sais pas quoi.
Alors, je pense que c'est déjà dû à l'outil que j'utilise, parce que je fais des dessins automatiques avec tout plein d'outils différents, et cela, c'est au pinceau. Ouais. Donc le pinceau a un côté en lui-même très organique, on va pas faire des choses très droites, très rectilignes, ou alors si on a l'intention de faire ça, on va plutôt se pencher vers un autre outil. Et puis ensuite, il y a aussi le fait que ces dessins-là, je les ai choisis parmi un certain panel, et personnellement, ce que j'aime dans un dessin, c'est quand j'ai l'impression d'entrer dans un monde fantastique, et donc il faut que moi, j'ai l'impression que je pourrais vivre dans le dessin, que je pourrais aller dedans, me balader, et puis vraiment les endroits qui m'intéressent ou me balader, c'est plutôt des endroits avec de la nature. Donc oui, il y a souvent des côtés très organiques. Moi, il y en a deux en particulier qui me font penser à la mer. Celui-ci, je verrais plutôt la mer vue de haut, comme si c'était les vagues qui arrivent sur la plage. D'ailleurs, ici, je vois une bouteille, comme si une bouteille avait été baladée par les flots de la mer. Et là, ici, je vois la mer aussi parce que je vois une sorte de baleine, des grandes vagues.
C'est l'imaginaire, en fait, selon tes yeux à toi et selon aussi les yeux des personnes qui voient. Parce que là, on peut même, s'il y a un dessin, on peut même dire, moi, je vois des dents avec une sorte de crâne, mais qui n'est pas tout à fait terminé.
Oui, alors c'est ce que les gens voient le plus et ça m'amuse beaucoup parce que moi, je ne l'avais pas spécifiquement remarqué. Et je pense que 90% des gens voient ici une mâchoire.
Ouais, c'est ça.
Alors ça me parle parce que moi, juste au niveau de la mâchoire, ce que je vois, c'est un personnage en costard qui n'a pas de tête.
D'accord.
Juste ici.
Mais est-ce que tu fais aussi des expos personnelles et peut-être que tu as une actu là bientôt, une autre expo prévue?
Alors pour l'instant, j'en fais pas d'autres, mais justement, je suis à la recherche. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre idée. Je vais probablement exposer sur Valenciennes bientôt, je pense, mais je ne sais pas encore. Alors mon travail, on peut le voir aussi sur Instagram, donc sur Diane Francoze, voilà.
C'était un entretien avec Diane Francoze, artiste du collectif associatif Artzimut, pour évoquer son travail autour du dessin automatique qu'elle a proposé lors de l'expo intitulée Patouche, qui s'est déroulée du 29 mars au 7 avril à l'Hôtel de Guine d'Arras, dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art.